Avant d'enregistrer ce premier podcast, je tiens à faire une petite mise au point par rapport aux gens de la cellule. On dit jeu de rôle et non jeu de rôle. Mauve, rose, chauve et jaune. Merci. Nous sommes ici pour enregistrer des podcasts sur notre campagne de sens. Nous allons donc nous présenter. Bonjour, je suis Vincent, le maître du jeu.
Bonjour, je suis Baptiste, un joueur.
Salut, moi c'est Cédric, un joueur également.
Et moi c'est Adrien, le troisième joueur.
Je pense qu'il faut que vous commenciez par présenter peut-être le contexte dans lequel cette table a été créée.
Je peux me permettre de commencer. Le contexte, c'est vrai qu'il peut paraître un peu particulier. C'est une rencontre qu'on avait fait lorsque Vincent avait fait une présentation du jeu Sens au magasin à Toulon, La Tanière, magasin de jeux de société, jeux de rôle, très orienté là-dedans. C'était une présentation du jeu, un premier scénario a priori one-shot, mais qui finalement s'est transformé en début de campagne pour Adrien et moi. C'est là où on s'est rencontrés. Baptiste n'était pas encore là, c'est moi qui l'ai invité à la suite, parce que je pensais que ça allait lui plaire, et visiblement ça lui plaît, hein, puisqu'il est toujours là.
Je me souviens encore de la conversation qu'on a eu dans la voiture une demi-heure. Il m'a vendu du rêve, et j'en suis pas déçu aujourd'hui.
Voilà, donc... Bon, après, cette première partie était particulière. Je sais pas s'il faut en parler.
tu peux en parler.
Parler de Angel.
Il y a des gens qui n'aiment pas Sens et qui n'y adhèrent pas, et on peut en parler aussi.
Oui, enfin là, c'était plus que juste pas y adhérer. Là, c'était...
Certes, c'était une tentative de fracasser le scénar et d'empêcher d'aller jusqu'au bout.
Donc c'était un peu...
Mais bon, ça peut arriver.
Ça n'a pas... Moi, personnellement, ça ne m'a pas empêché en fait, d'adhérer complètement à l'univers et au système qui m'a super plu. Quoi. Et puis Adrien aussi, puisqu'on en avait discuté... je crois qu'on avait déjà discuté pendant les pauses qu'on avait faites à La Tanière, un petit peu.
Oui, clairement. Moi, ce qui m'a le plus enthousiasmé
Adrien.
Au départ... Moi, ce qui m'a le plus enthousiasmé au départ, c'était le système, en fait. Je trouve que le système est juste génial d'avoir... d'avoir comme ça des personnages qu'on construit au fur et à mesure de l'histoire, avec les faits qui se rajoutent. Je trouve que c'est vraiment un système assez novateur et ça permet vraiment de s'attacher un petit peu à ce personnage et de
lui donner une vie, peut-être.
Ouais, de lui donner une vie, de le faire grandir et de lui donner des souvenirs, en fait, un petit peu. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a plu au départ, c'est que j'ai senti directement que c'était un jeu aussi. C'était pas le jeu de dés où juste tu vas défoncer des monstres, mais c'est un jeu qui te fait réfléchir, où vraiment t'as une recherche sur le personnage que tu vas construire, il y a une profondeur que tu dois donner, et le fait de décrire des faits, c'est comme si tu te souvenais un peu plus de ce que tu venais de faire, quoi.
Ok, alors pour la petite histoire, on avait joué le scénar Akina.
Oui. Ouais.
Et je vous laisse raconter la suite.
Comment c'est organisé, on avait fait la première rencontre, on s'était retrouvés tous les trois et on a entamé avec Baptiste.
C'était chez Vincent d'ailleurs.
Oui.
Et du coup après oui, ça s'est mis en place, les personnages ont appris à se connaître aussi, puisque du coup sur le scénar Akina il n'y a pas trop encore de relations entre les personnages. Et on a une manière de jouer qui est assez particulière autour de cette table. C'est vrai qu'on a, puisqu'on a un des joueurs, n'est-ce pas, hein, Adrien, qui fait ses études en Belgique.
Exactement.
Qui a aussi accessoirement passé 6 mois à l'autre bout de la planète.
Mais non, pas 6 mois, j'ai passé 1 mois et demi en Équateur. Ça va.
Tu es de mauvaise foi, Adrien. C'était trop long.
Non, donc du coup, on a rapidement pris le pli de jouer, comme on dit, en marathon. Marathon, c'est-à-dire qu'on arrive, on commence tranquillement entre 9h et 10h à s'installer, et on finit tranquillement entre 2h et 6h du matin.
Ouais, 6h du matin.
Ouais, en fait, comme on ne peut pas jouer souvent, je fais des sessions qui durent entre 12 et 15 heures, donc qui ont des avantages et des inconvénients, mais dont on discutera sur un autre podcast de la cellule.
Donc voilà, après, sur le thème d'organisation, c'est l'implication majeure de la table, quoi. C'est ce format-là.
Mm-hmm. Oui, je pense que c'est pour beaucoup dans votre immersion, dans la vitesse à laquelle on avance aussi, parce que paradoxalement, on joue pas souvent, mais on avance assez vite.
Oui, et parce qu'on prend peut-être moins le temps de papillonner sur des scénars accessoires, entre guillemets.
Oui, c'est vrai que je fais à peu près que les scénars de la base, à une ou deux exceptions près. Mm.
Ouais, qui sont quand même assez nécessaires. Hein. Par exemple, Secret Duchess Island Lanta.
Comtesse Island, s'il te plaît. N'abîme pas mon scénario.
Qui, quand même, permet d'immerger les joueurs immédiatement dans « Salut, ça c'est Séléné », par exemple.
Alors, on va peut-être présenter vos personnages, tour à tour. On commence par toi, Baptiste.
Ok. Alors, quand je suis arrivé dans Sens et dans la création du personnage, c'est vrai qu'à la base, par rapport au miroir, en fait, j'avais vraiment voulu m'axer sur plus la création. Donc j'avais vraiment des faits vraiment axés sur la création. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que avec ce petit talent en termes de création, j'avais un certain avantage très léger par rapport à mes coéquipiers, enfin à mes frères, Bug, dans la gestion des ondes au pouvoir. Parce qu'en fait, je me souviens sur le tout premier scénario où, avec la pierre, et en fait, au lieu de la casser comme les autres, moi j'ai tenté de la reconstruire et j'y suis arrivé. C'était déjà un très gros exploit pour moi. Surtout du fait que c'est la première fois qu'on utilisait les ombres au pouvoir et qu'on comprenait quel était l'ombre au monde, à quoi il allait nous servir et comment on allait évoluer dedans. Et après, un petit peu plus loin dans l'avancée de mon personnage, je suis vraiment resté dans tout ce qui était création, dans vraiment construire des équipements qui seraient utiles pour nous dans la campagne. Et aussi, j'ai changé mon armement pour passer sur quelque chose de non létal. Parce que je trouvais que c'était plus dans mon style de vraiment chercher des solutions avant d'employer la force.
Ok, t'as autre chose à ajouter là-dessus ?
Non, là c'est bon.
Cédric ?
Sur le fait de ne pas utiliser la force ?
Sur ton personnage, la description de ton personnage.
Alors, la description de Jaden, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, le petit Jaden, il a pas mal évolué quand même au cours de la campagne. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour le coup.
Commence par le début.
Et par le début, plutôt pas mal traumatisé par l'attaque de la Nouvelle-York à l'époque. Il était plus ou moins en première ligne quand les parents se sont transformés d'êtres humains à charpie. C'est un peu éclaboussé, quoi. Donc c'était pas top. De base, plutôt effectivement à essayer de se créer une espèce d'image qui n'était pas... où il n'était pas vraiment affecté et compagnie, mais force a été de constater que une fois que ses frangins étaient en danger et qu'il y a des gens autour de lui qui ont commencé à mourir, bah, il s'est rendu compte que ça tenait pas, cette image-là, et que ça lui tenait quand même à cœur de protéger ses frères, que c'était systématiquement un petit traumatisme quand il y avait quelque chose qui se passait pas cool. Son arme, ça a été un bouclier, pour une raison bien particulière, puisqu'en fait, son objectif, à partir de là, c'était principalement de protéger ses frères, donc d'encaisser les coups. D'un point de vue gameplay, je suis quand même arrivé à une respiroïde de quasiment 10 BM, avant de la perdre. Mais bon, c'est pas très très grave.
C'est une autre histoire que l'on comptera plus tard.
Mais qui du coup, Jaden, plutôt des instincts grégaires, généralement, assez sanguin. Et heureusement qu'il avait ses deux autres frères à côté pour un petit peu le tempérer. Mais en même temps, c'est ce qui mettait en mouvement souvent le groupe aussi dans certaines décisions, bien qu'il fallait très souvent le tempérer quand même, le garçon.
Plutôt.
Et après, il y a eu l'attaque de la bataille de Berlin, et là, son destin a basculé. Mais du coup, celui qui le tempérait le plus souvent, c'était le personnage d'Adrien, qui est...
Marek. Alors moi, oui, je joue un personnage qui s'appelle Marek Firma. Et donc c'est un personnage qui est plutôt assez logique, qui est aussi...
Chef de section.
Oui, qui est le chef de section.
C'est important.
J'ai toujours eu un petit côté un peu... des fois un peu tempérant, par exemple pour Jaden, qui lui en effet est un peu sanguin. Et donc voilà, j'étais aussi là pour arrondir un peu les angles, on va dire. Et donc voilà, le personnage de Marek est plus un personnage qui est plutôt assez stratège, qui n'est pas dans la force brute, qui essaie de réfléchir en fait à certaines attaques, c'est-à-dire que je me suis très vite...
Comment il essaye de nous vendre le perso tout en finesse ?
Attends.
Il y a eu deux, trois exemples de fois où c'était pas vrai.
Quoi ?
Oui.
On n'en parlera pas.
Non, mais il y a voilà. Des choses qu'il vaut mieux ignorer.
Après voilà, c'est un personnage, non, c'est un personnage qui finalement au niveau du miroir que ça a donné est assez équilibré en fait tout de suite. Et je me suis très vite orienté sur des choses, par exemple pour les armures,
Tu peux donner tes scores de runes, les deux principales. Ça définit assez bien un personnage en général.
Je suis pas sûr que le score de runes que j'ai devant moi soit le bon. Je dirais Cosmo 58, et après j'ai Mort et Chaos qui sont à 52.
Voilà.
Alors non, parce qu'en fait tu viens de rajouter ton immersion positive.
Ah, je viens de rajouter l'immersion positive. Donc que
c'est 38 et 32.
C'est pas grave.
Oui, voilà, on comprend le... Que les dominantes quoi. Et donc c'est quelqu'un qui a quelques doutes, qui fait des attaques combinées avec Jaden. et oui, ce que je disais, c'est que je me suis très vite orienté par exemple sur l'armure, sur les améliorations, je me suis très vite orienté vers des améliorations qui me permettaient d'avoir au bout d'un moment des ailes dans le dos pour pouvoir voler, arriver au-dessus des ennemis et sur la vitesse en fait plutôt que l'attaque. Donc c'est dans ce sens-là que
le déplacement stratégique.
C'est ça, les déplacements stratégiques. Voilà, à peu près.
OK, bon, peut-être résumer la fiction, alors pas trop s'étendre parce que sur Renaissance on n'est pas sorti des clous. Mmh. On a fait que la fiction
by the book. Il y a 2-3 détails que tu as peut-être ajouté,
alors,
je pense.
Peut-être éventuellement une scène marquante peut-être par joueur de Renaissance. Mmh. Et moi après je reviendrai sur les quelques changements. Baptiste,
Clairement dans le Sub-Zeri, quand on est rentré d'avoir été chercher comment il s'appelle le chercheur,
Viggo Nemeo.
Ouais. Que j'étais dans ma respli désactivé et que j'avais attrapé
un gros rhume.
Et que du coup en fait c'est pourquoi c'est important pour moi, parce que c'est ma première rencontre avec Célia.
C'est faux, c'est totalement faux.
Non, mais ma première vraie rencontre en fait.
Mais non, c'est totalement faux. Tu l'avais rencontrée au trajet d'aller et elle nous a fait bouffer du saumon pendant tout le trajet.
C'est à cause de toi qu'on a bouffé du saumon.
Et en plus on t'a aidé,
c'est clair,
à pécho, et c'est nous qui avons bouffé du saumon toute la semaine.
Alors juste pour préciser, Célia est ma version de la forme humaine de sauveuse qui chez moi s'appelle Céleste.
Ouais.
Voilà.
Cédric ?
Plus marquante.
Ah
non, ça c'est la plus traumatisante.
Ah pardon.
Ça c'est pas pareil, c'est la plus traumatisante, d'autant que j'avais fait plus ou moins aussi appel à la X-Card à ce moment-là après.
C'est vrai.
Donc... Non, marquante après, parce que la première qui m'a vraiment... Où là, on était dans une immersion hyper intéressante et hyper tendue, c'est quand on a enquêté sur la base arctique, qu'on revient, que visiblement, il y a un problème. On retourne dans le monde réel après avoir enquêté dans l'ombre monde, et qu'on déambule dans tous les couloirs, jonché et éclaboussé des cadavres des scientifiques de Viggo Nemeo, oui. Accrochés au plafond, retenus par la viscosité de leur tripes qui maintient le bas de leur corps pendu, l'ambiance lumineuse, l'ambiance de musique.
Je passais Koyanis Katsi de Philip Glass.
Et tu faisais...
Et le toit qui tapait...
Je rythmais la musique en tapant de manière cyclique et puis en tapant plus ou moins fort
sans
sur la table.
Sans expliquer pourquoi.
Accessoirement, merci Rome pour cette technique.
Ah, ça marche super bien. Hein.
Ça marchait super bien. On était en état de PLS la plus totale. Hein.
C'est clair.
Ce qui nous a pas empêché de vaincre le Cadria à terme.
Oui, bon, c'est après, un petit Cadria, c'est rien lui.
Mais c'était aussi hyper sympa parce que c'était la première fois qu'on mettait réellement en pratique notre super technique d'attaque combinée avec Marek et qu'on l'a ouned.
Ah, on l'a défoncé.
C'est vrai.
Pendant qu'il défonçait...
Par contre, Akora, il était un peu mal, après. Ouais.
C'est au cours de cette scène qu'il a été contaminé par un virus mystérieux.
C'est ça.
Et qu'en plus, j'ai fait mon premier et quasiment seul fait de cellulis pour résoudre la situation. En tant que réalisateur, j'ai invoqué la possibilité de faire une ellipse scénaristique.
Ouais, alors ça, c'était super bien joué. J'ai trouvé ça... pour le coup, original, comme fait de Cellulis, est vraiment sympa. Ouais.
Et on avait réussi à faire ce qu'on avait sauvé Acora, embarqué
Viggo Nemeo,
qui du coup, parce qu'il a fallu raconter ce qui s'était passé pendant cette ellipse scénaristique, hein, a pris 2-3 coups de coude et dans la mâchoire pour qu'on l'interroge. Toi aussi, tu l'avais tapé.
Oui, non, mais on était plusieurs dessus. Hein.
Tout ça pour qu'après, on se disait non, on va pas le tuer, la résistance a besoin de l'interroger. Tout ça pour qu'après, une certaine personne décide
de l'accepter.
Chacun sa fonction.
Ouais, bon.
Qui êtes-vous pour juger la fonction des autres membres du Conseil de la Résistance?
Techniquement, il n'en faisait plus partie.
Si, sa place a toujours été vide autour de la table du Conseil.
Ouais.
Bref.
un événement marquant, la rencontre avec Graveur, qui était un moment assez intéressant aussi. Ce quadrilla était super intéressant parce que justement, il nous a dit des choses qui faisaient se poser des questions sur même le sens du jeu, le sens de ce que l'on...
Alors le sens du jeu, J-E-U ou J-E ?
Ah,
Les deux,
exactement.
Moi, je dirais les deux.
Oui, les deux, clairement. Mais enfin, voilà, je trouve que ce qui était intéressant, c'est que Graveur, même en écrivant ensuite le rapport de mission, je me suis reposé la question de ce qu'il avait dit, quoi. Je me suis dit, tiens, ce qu'il vient de dire...
On a l'habitude de dire que Graveur, c'est le lancement de la campagne. Ouais, avant, c'est un tutoriel et Graveur...
Oui, c'est là où tu commences vraiment à t'interroger un petit peu.
Tu commences vraiment à jouer à sens.
C'est ça, exactement.
Oui, ce qui soulève plein de questions physiques, métaphysiques et philosophiques, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc ça, je trouve que c'est... Enfin, du coup, c'était un truc assez marquant, puisqu'en plus, derrière, il y avait
deux, trois indices pour la suite.
Oui.
C'est vrai. Et je pensais que tu allais nous parler rencontre avec le fantôme. Ouais.
Franchement, j'ai beaucoup hésité parce que en effet, là, ce fameux truc de Demon Classis qui m'a fait qui a fait que mes frères m'ont pris pour un fou pendant un certain temps.
Oui, hein. Je vais quand même raconter que Nedemon ne t'apparaissait qu'à toi.
Oui, il apparaissait qu'à moi.
Il ne t'a parlé la première fois que quand on est arrivé à Aquacity.
Oui, oui.
Pendant tout le reste du temps, tu le voyais juste apparaître spontanément, puis disparaître, et non. Tu n'avais la possibilité jamais de nous montrer.
J'avoue que j'ai une image assez marquante, qui est assez drôle, et c'est quand on était dans le Sub-Zeri. Que j'étais tranquille dans ma chambre, et que là je vois à travers le hublot un mec, on était à 2000 mètres de profondeur, et là je vois un mec juste là, dans l'eau, avec une bouée en canard, en train de me faire coucou et de me montrer une direction. Donc là évidemment je suis resté un petit peu perplexe, et c'est vrai que c'est un truc marquant, mais bon, je voulais parler de...
Et puis surtout, il est reparti en nageant plus vite que le Sub-Zeri.
Oui.
Oui, parce que c'est... À 2000 mètres de fond, le mec en bouée canard avec masque, tuba et palme,
ça va.
Tout ce qui est inquiétant, c'est qu'il nage plus vite que le Sub-Zeri.
Et puis là, on se demande les questions que m'ont posées...
Ça fait partie d'un tout, je suis désolé.
On se demande un petit peu les questions que m'ont posées les autres après. Ils se sont bien foutus de ma gueule en disant « Non, mais tu sais, c'est pas grave. » Parce que forcément, on a regardé les caméras de surveillance et il n'était pas dans les caméras. Enfin, bon.
Oui, parce que tu as filmé. Oui, au moyen de ta respioïde.
Je l'ai filmé au moyen de ma respioïde et que dalle. Donc forcément, il m'a bien trollé ce con-là.
C'est curieux, venant de Nedemon Classis.
Oui, c'est curieux, oui. Clairement.
C'est pas le style à troller.
Mais non. En fait, en définitive, c'est pas tant... Enfin, si.
Bah, moi, je l'aime bien. Hein.
La manière d'apparaître est un troll pur, mais la démarche ne l'était pas à 100%.
Oui. Au moins, j'ai réussi à un moment à prouver qu'il existait. Donc ça, c'est déjà pas mal.
Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Nedemon Classis, attention, on parle que de Renaissance.
Ouais, que de Renaissance.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est? Pourquoi? Comment?
Que de Renaissance.
Un gros troll.
Un énorme troll, ouais.
À ce moment-là, un gros troll qui n'aime pas qu'on dise du mal de sa copine.
Mais il y a autre chose.
Hein, n'est-ce pas, Adrien?
Oui, je me suis fait défoncer parce qu'à un moment, je lui ai demandé c'est qui cette femme à poil dans le...
On parle de
la alors, il faut mettre le contexte autour quand même, parce que effectivement ton personnage était très 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 énervé, parce que du coup tu te rendais compte que le mec avait passé son temps à se foutre de ta gueule, à te faire passer pour un dingo, alors qu'Aqua City se montre à quasiment tout le monde, surtout aux enfants pour les faire jouer à un jeu de rôle. Et je me souviens très bien que ton personnage était très énervé, que Jaden t'a dit vas-y, défonce-lui sa gueule. Du coup, en plus, il voulait pas nous parler parce que Classis à ce moment-là était un peu. Il était un peu mélancolique. Peu en tout cas, il jouait.
Il était triste parce qu'il y avait la femme qu'il aime inaccessible.
Et qui jouait de la musique.
Oui,
il avait beau. Tu lui avais beau lui poser des questions, il ne te répondait pas. Ça t'a énervé, t'as fini par dire « Et c'est qui cette meuf là-haut à poil ?» ouais. Mais vraiment en mode limite « C'est qui cette connasse en haut à poil ?»
Du coup, il l'a pas forcément très très bien pris.
Qu'il a posé sa guitare, il a empoigné ton cou, il a serré très très fort, tu as pris une BM et tu as compris que c'était la dernière fois que tu parlerais aussi mal d'Azimis.
Oui, bon... Non mais voilà, en tout cas, non pour moi, c'est il m'a quand même aidé à certains moments, parce que bon, à part me troller et me faire passer pour un fou pendant une bonne partie de la campagne, moi je me souviens de ce moment-là où il venait me voir dans ma chambre le soir et me réveiller pour me montrer je vous emmerde.
C'est bien inquiétant là.
Moi je me rappelais pas de tout ça.
T'es sûr que tu veux en parler parce que...
Non mais quand il venait là pour me montrer la personne un peu mystérieuse qui s'entraînait, c'était Aqua City, c'est
ah, oui,
ça. Qui s'entraînait et qui me l'a montré et qui m'a dit.
Oui voilà. Mais déjà à ce moment-là par contre on avait plus ou moins une idée de qui il était.
Eh bah, ben.
Enfin de qui ça, il était
vous
non.
Vous saviez pas. Mais en tout cas pour un fou, je vous réveillais tous les soirs en me disant j'ai vu ce mec qui balait à ma porte et qui me parle.
Ah bah non, tu dis on te prenait pour un fou, c'est pas sympa de dire ça parce que quand même on est venu voir avec toi qui était ce mec qui s'entraînait. Donc on ouais. Te croyait.
Et oui, et c'est comme
et
ça que
même si
prouver,
tu étais fou, oui. On s'est dit on va le faire, ça va lui faire du bien.
Mais c'est comme ça que j'ai pu prouver que ce mec, que le mec que je voyais, il existait. Parce que du coup, il m'avait expliqué qu'il y avait un mec qui s'entraînait de telle heure à telle heure. Donc
oui,
si on allait voir,
spontanément, tu n'aurais pas pu le savoir.
Oui, j'aurais pas pu le savoir.
C'est ça, c'était juste le fruit de ton esprit.
Et donc, qu'est-ce que, à ce moment-là, pour vous, qui est Classis, quel est son rôle?
Bah, quel est son rôle à ce moment-là précis ou à ce moment-là fin de renaissance? Fin de renaissance, il me semble qu'on avait déjà eu des réponses sur qui il était de la part de Soren Solipsis, qui nous avait expliqué que c'était son mentor à la base, donc qui dit être son mentor vu l'âge qu'on lui imputait. Il était très clairement un des immortels. À la fin de Renaissance, on a l'explication que les immortels, certains immortels en tout cas, ou tous les immortels de ce qu'on connaît en tout cas, sont reliés aux runes. Et donc, qui est relié à quoi? Soren Solipsis, ça l'a vu très clairement. Le fameux mec qui s'entraînait le soir à la rune de mort. Miphos Kadria, très clairement à la rune de Cosmo. Et sans trop s'avancer, Azilis était très clairement orienté néant.
Et on savait aussi que Wilfried était plutôt Caro.
Non, était un immortel.
Oui, et c'est après qu'on a défini qu'il était Caro par rapport à sa vitesse.
Non, en fait, là, on a eu beaucoup de mal parce que c'est aussi lui qui avait écrit les poèmes.
Oui, c'est ça, on pensait qu'il était créé à un moment.
Et donc,
entre ça,
on savait qu'il était très Caro. On savait qu'il écrivait des poèmes qui, en plus, influaient dans la réalité. Et Classis était un immortel qui a passé son temps à troller le personnage d'Adrien. Donc, on a pendant un moment plutôt eu tendance à inverser Wilfried et Classis jusqu'à ce que on ait une discussion avec Adrien où on parlait de théorie au téléphone, je me rappelle, et que je te parlais des théories qu'on avait mis au point, qu'on avait échafaudées avec Baptiste, et à un moment, je te parle des couples d'immortels.
Oui, et puis on a fait un peu les vases communicants. Quoi.
Et en fait, du coup, en fait, ça devenait très clair qu'en fait, Soren Solipsis Finlongfinger, donc vie mort, qui s'oppose sur le cadran de
le
sens,
miroir.
Le miroir. Mais non.
Non, le cadran.
Le cadran. Le oui, miroir, le cadran. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ah, enfin, oui. C'est ton miroir. On savait où placer Miphos, on savait où placer Azilis, donc par déduction, on a pu placer en créa, donc du coup l'immortel affilié à la création était à ce moment-là théoriquement pour nous Classis. Et du coup Wilfried repartait à sa place de chaos. Ce qui s'est avéré juste.
Oui, et puis ce qui est assez logique ouais, pour la suite. Oui. Mais aussi Nedaemon. Enfin, moi j'ai tout de suite compris qu'il était un peu particulier puisque.
Plus dur avec lui quand même.
Il avait l'air de transgresser quand même certaines règles vu qu'il parlait au MJ sur Facebook par exemple. Il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même par rapport à ça.
Alors, il faut que je précise une chose à ce sujet.
Ouais.
J'ai créé un groupe Facebook
oui.
qui nous permet de communiquer, mes joueurs et
une
moi.
Une anecdote tellement drôle à ce propos.
Et il y a quelques fois un certain Nedaemon Classis qui venait et il faut avouer qu'il trollait un petit peu.
Ah, on est d'accord.
Il faut l'avouer.
Première fois qu'on l'a rencontré sur ce groupe, on avait Adrien et moi, Baptiste, le voyons, et pas Cédric.
Non, c'est pas vrai.
Après,
c'est pas ça l'histoire.
Ah oui, il y avait
l'histoire,
un
c'est que, à un moment, on avait une discussion sur Messenger, tous ensemble, et Classis, de temps en temps, venait et insérait du troll. À ce stade-là, c'était vraiment du troll. Et Vincent disait, non, mais ne l'écoutez pas, faites comme s'il n'était pas là. Et j'ai eu la mauvaise idée de jouer le jeu à fond, en disant, mais de quoi vous parlez? Et Adrien a dit, bah, le mec là qui parle... Je me dis, mais de quoi, comment ça? J'ai joué le jeu de « il n'existe pas jusqu'au bout ». Et personne n'a compris, en fait.
Mais tu sais que j'avais pas capté ça.
Non, mais Vincent non plus, parce qu'au début, il faisait celui qui jouait le jeu, mais il est venu me voir en MP pour me dire « non mais rassure-moi, tu le vois pour de vrai quand même ».
Ah mais quel enfoiré, putain.
Et Adrien ouais. a eu un petit moment de doute sur son intégrité intellectuelle. IRL.
La PLS.
Avec le. Oui, mais oui, mais bon. C'est, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez de Soren Solipsis? Qui elle est pour vous, surtout? Parce que qui elle est, les gens qui vont écouter ce podcast sauront qui elle est.
Oui.
Oui, a priori.
Bah, toi, c'est toi qui avais la relation la plus développée avec elle, a priori.
Qui est Soren Solipsis?
Une femme, déjà.
Oui, une femme, c'est ce qu'on apprend.
Pas si évident au début.
Pas si évident au début.
Même s'il y a eu deux lapsus, mais qu'on n'a pas su relever.
Non.
Oui, c'est vrai.
Si, moi, un, mais j'ai plus calé ça sur le compte de l'erreur que sur le...
Sur le lapsus.
Sur le lapsus.
Donc bon, pas grand-chose à dire sur Soren.
C'est quelqu'un en qui on... À ce moment-là, bah, c'est en qui on a toute confiance. C'est,
Alors attention, en qui tu as toute confiance. Parce que pour mon personnage, c'est pas forcément évident.
Oui, pour ton personnage. Ouais, peut-être. Enfin, moi, je sais que c'était la personne en qui j'ai totalement confiance à ce moment-là, qui m'aide. Enfin, dès que j'ai une question, qui vient répondre, qui a un petit côté un peu
maman.
Maman, ouais. Un petit côté un peu maman là-dedans. Et après, il y a quelque chose de mystérieux derrière, puisque finalement, on ne sait pas trop ce qu'elle fait quand on la voit pas. Sur des recherches, donc il y a forcément, on sait pas trop, mais de toute façon.
Est-ce que c'est quelqu'un dont vous vous êtes méfié à un moment donné?
Par contre, non. Pour le coup, non, pas vraiment.
Quoi?
Pas à ce stade-là.
Et toi, moi non plus.
Parce que c'est un reproche qui est souvent fait. Souvent, les joueurs ont une espèce de défiance envers Soren Solipsis, et c'est embêtant pour la suite. Donc, je suis content d'avoir réussi à instaurer cette
confiance.
Non, à
ce stade-là, non. Attention, parce qu'après, moi, pour mon personnage, ça a beaucoup changé à la fin de Renaissance, après la mort de Gladius, et après les révélations sur le vrai but des Cadria et le sens de leur existence, entre guillemets.
Oh là là. Mais en même temps, Gladius, il est mort parce que vous n'avez rien fait pour l'empêcher.
Je refuse de continuer ce podcast. Il faut quand même remettre certaines choses en lumière à ce niveau-là. On apprend que les Cadria de vie, finalement, en fait, ont joué le jeu de la résistance. Kranisten sous-entend quand même clairement que c'est presque sous ordre de Soren qu'ils ont joué à ce jeu-là, à jouer le jeu des bons méchants, mais en fait, pour pouvoir nous entraîner à devenir balèzes. Donc, en fait, il y a clairement des choses qui nous sont volontairement cachées, on nous prend pour des imbéciles. Aussi bien là comme tu viens de le faire, bon, pour plaisanter, en même temps des fois j'ai un peu... non, mais bon, dans le roleplay, mon personnage se l'est pris dans la gueule, ce truc de ne pas avoir agi à la mort de Gladius.
Mais c'est factuel, vous.
C'est factuel, effectivement, c'est factuel. Après, dans les faits, est-ce qu'on a vraiment eu le temps ? Enfin bref. Le fait est que, ça c'est un argument aussi qu'il a su renvoyer allègrement dans la tête de celui qui a essayé de l'attaquer avec ça. Ce qui a donné lieu à une scène très tendue, mais...
On en parlera plus tard.
Ouais. Et le rapport qu'il a avec Finlongfinger et Soren Solipsis, il est plus du tout le même que pendant tout le reste de... Enfin, Finlongfinger, pas du tout, du coup, puisqu'il ne le connaissait pas. Pour lui, il était... enfin, pour nous tous, il était mort. Mais pour Soren Solipsis, il est très changé, quoi. Pour deux raisons. Enfin, il a été très changé pour une raison. Et il re-rechange pour une autre raison juste après. Mais... Donc, okay. C'est pas évident. En tout cas, pour mon personnage. Après...
Baptiste, quelque chose à dire sur Soren ou non, rien de particulier ?
Non, peut-être au tout début, quand on a vraiment sa description, des légers doutes, parce que ça reste quand même quelqu'un qui parle aux plantes.
Oui.
Mais Adrien a sorti une superbe belle théorie sur ça, sur le fait que pourquoi est-ce que ses amis sont des plantes, entre guillemets. C'est un raccourci très vulgaire, mais...
Oui.
Tu te rappelles pas ?
Si, je me rappelle avoir sorti ça, mais après, dans les termes...
Tu avais dit que peut-être qu'elle était attachée autant à ses plantes,
parce que la perception du temps était à peu près la
parce
même.
Oui, parce qu'en fait, par exemple, un arbre, ça vit beaucoup plus longtemps qu'un être humain, et donc du coup, c'est peut-être des êtres avec qui elle se sent avec plus d'affinité en termes de longévité.
Ce qui est loin d'être bête.
Non, surtout quand on voit la suite vers laquelle on va.
C'est une théorie, en tout cas.
Oui. Putain, mais c'est vrai, ça.
Ouais, c'est pour ça, totalement.
Bref.
Je sens le MJ.
Peut-être deux mots sur Maria.
Non.
Bah, ça, c'est un peu la grand chose, mais second degré.
Moi, j'ai pas grand chose à dire.
C'est plus la tante, en fait.
On n'a pas vraiment eu de rapport avec elle.
C'est un peu la tata sexy, quand même. Hein.
Ouais.
Maria Greenway.
C'est vrai.
C'est la tata. Ouais, c'est la tata un peu creepy, un peu sexy.
Ouais, mais on n'a pas eu trop de rapport avec elle.
J'ai pas réussi à trop la jouer.
On n'a pas trop. Après, on s'est pas fait trop mal non plus, donc on n'avait pas trop de raison
d'aller
la
voir. Non, c'est vrai. Vous avez été peu blessé, je trouve.
Après,
par contre, trop gentil.
Peut-être.
Ouais. Mais par contre, la seule scène que t'aurais pu avoir avec elle, c'était quand on t'avait dit d'aller la voir parce qu'on. On commençait à sentir que tu perdais un peu pied avec l'histoire de Classis.
Ah oui.
Et en fait, tu avais refusé de le faire. Donc après, et on avait accepté que tu n'aies pas envie de le faire. Parce qu'on t'avait dit que...
Okay. C'est...
Mais après, c'est peut-être aussi par rapport au mode de jeu qu'on a eu. J'ai l'impression qu'il y a des personnages qui, peut-être, auxquels on s'attache plus lorsqu'on fait des petites sessions toutes les semaines parce que justement...
Plus de sessions plus courtes,
dans le sens où t'apprends entre guillemets à vivre avec ces personnages un peu plus.
Oui, t'as plus de quotidien.
Voilà, c'est ça. on l'a pas fait exactement de cette manière. Moi, je suis très content de faire des marathons comme ça, mais je pense que du coup, il y a des personnages qui sont plus.
Qui passent au second plan, clairement.
Voilà, disons-le. Du fait qu'on a employé cette manière.
Il y a aussi une chose qui vient de moi, de choix. Pour moi, il est très très important. Et je pense pour tous les MJ de sens, que les joueurs se lient essentiellement à Soren Solipsis, à Gladius World, si possible à Wilfried. Et Maria, c'est important aussi, mais j'ai pas eu le temps de le développer. J'ai pas mal développé Soren Gladius.
Ça, c'est vrai.
Wilfried, pas assez, un petit peu, mais pas assez. Je pense que ça n'a pas été un si gros choc que ça pour vous. L'attitude de Wilfried.
Moi, un petit peu.
Je pense que le premier gros choc, ça a été la mort de Gladius.
Donc là, on a tous pris un coup dans la gueule.
Parliez de Gladius World. Papa's World.
Horrible.
Oh.
Ah oui, ça a été un sacré événement. Parce que, bah, en fait, oui.
Un sacré événement. C'était pas une fête, un goûter d'anniversaire.
Je l'ai pas
ressenti. Mais en fait, c'est vraiment passé. Très très vite, parce qu'on a d'abord en fait la première alarme entre guillemets qui est les Kadria attaquent Aqua City.
Oui.
Du coup, on fait trois pas vers l'extérieur, et là en fait, par la grande baie vitrée, parce que moi en fait, j'imaginais vraiment dans un grand building avec des baies vitrées partout, et en fait, avec une grosse vue plongeante sur un peu des masses immenses qui s'avancent sur Aqua City en détruisant tout sur leur passage. parce qu'on n'avait vraiment pas l'idée de ce qu'étaient les quadrillas de vie à ce moment-là, quoi. Ouais, avec des, oui, non, mais je veux dire leur intention, mais avec des éclairs qui partent dans tous les sens, enfin, vraiment quelque chose d'assez un peu chaotique quand même, vraiment. Et juste le temps de faire ces trois pas et de voir cette scène, tu te rends compte qu'en fait, t'en as deux autres qui sont apparus derrière toi, donc ils sont entre toi et le conseil, et qui te laissent juste très peu de temps pour réagir, quoi.
Ouais, et puis il y a aussi autre chose.
En ce moment-là, nous avons accepté notre déterminisme et c'était terrible.
C'est un petit peu ça, en fait. C'est à un moment, là, ce qui était fort, là, c'est que, d'une part, c'était un moment, moi je me souviens, pendant 15 minutes, on était là. On était assis sur notre siège et on ne bougeait plus.
Ouais, on a fait une pause qui était urgente après.
Ouais, je me souviens très bien. Mais je pense que par rapport à ça, et j'ai revécu ça un petit peu plus loin dans l'autre scénar, mais on en parlera peut-être. C'est le sentiment un peu d'impuissance, en fait, qu'on a eu à ce moment-là. Genre, les choses sont passées tellement vite et on s'est rendu compte à quel point, on n'avait pas... on n'avait pas les ressources nécessaires pour agir. Et ça, en tant que personnage déjà, avoir vécu la mort de Gladius, ça nous a affecté puisqu'on était identifié à ce personnage. Et en tant que joueur aussi, ça affecte aussi parce qu'on a un peu aussi ce sentiment de merde, quoi. J'ai été impuissant par rapport à ça et j'ai pas... Enfin, moi, je sais que j'ai ressenti en fait cette double chose-là. C'est être affecté dans l'histoire et aussi par le fait que je me suis senti tout d'un coup comme si j'étais dépossédé en fait des pouvoirs que j'aurais pu avoir et juste subir un petit peu en fait subir le déterminisme comme tu dis.
Baptiste.
Et est-ce qu'on n'a pas été aussi un petit peu conditionné à ça par les deux ou trois précédentes rencontres avec d'autres quadrillas ou notamment la première où il faut s'y mettre à trois, faut se mettre à trois quadrillas. Trois bugs, pardon, pour venir à bout d'un quadrilla. En sachant qu'il y en a un qui tombe quand même.
Attends, parce que il faut aussi. T'as pas besoin d'aller jusque-là, il faut juste rappeler qui étaient les deux quadrillas face à nous. Hein.
C'était Granisten
et Météor.
Et alors, c'est des quadrillas de vie, quoi.
Ça, c'était après Graveur.
Ouais, oui, bien après. Ouais, c'était après. Bien.
Donc
bien
on avait déjà fait la rencontre de Météor, la rencontre de Granisten, non. C'est la première fois qu'on le voyait.
Bon, on connaissait son existence, parce que officiellement pour nous c'était celui qui avait tué Finlongfinger. Mais après, on ne l'avait jamais rencontré.
Voilà, en fait, je pense qu'on a été aussi un minimum conditionné par les précédentes rencontres contre les autres quadrillas. Le fait qu'il fallait vraiment qu'on emploie tous nos moyens pour venir à bout de Graveur, qui est quand même un quadrilla sur le déclin.
Oui.
Oui, mais on en a discuté. Regarde, on en a discuté hier. C'est visiblement, il y avait plus que ça.
Oui, mais...
Non, je vous ai posé une question.
Oui, mais il y avait peut-être...
Elle était en toute innocence, ma question.
Mais c'est vrai que là, de repenser à ce premier scénario...
La question que je leur ai posée, c'est... est-ce qu'au final, ils pensent que Graveur est un quadrilla de vie sur le déclin ou un quadrilla de mort? Et je pense que ça a amené quelques réflexions à ma table.
Oui, mais en fait, là, rien que le fait de reparler là, du premier bouquin...
Vincent caresse son chat imaginaire. Exactement. De méchant de film.
Mais rien que de parler là de ce premier bouquin, enfin de
oui,
voilà, ça fait réfléchir en fait sur ce qu'on est en train de faire actuellement en fait sur.
Alors ça, on y viendra plus tard.
Oui, pardon. Oui. Mais c'est...
Du coup. Moi, mon sentiment sur la mort de Gladius.
Oui, voilà. Je pense qu'il fallait le garder pour la fin.
Allez, éloignez le micro.
soyons un peu sérieux, parce que pour le coup, ça a été un peu intense pour moi, personnellement. Aussi bien au niveau du joueur que du personnage. Pour le personnage, c'était la PLS la plus totale. J'étais le seul autour de la table lié à Gladius. C'est-à-dire que c'était mon mentor, c'était tout. J'avais une relation particulière avec lui et compagnie. Et là où aussi Vincent a été très fort à ce niveau-là, c'est que on a passé avant cet épisode-là quand même 2 semaines en tête-à-tête, à plusieurs, mais avec Gladius, où comme il n'avait pas la pression du conseil sur les épaules à ce niveau-là, il s'est lâché et on a eu des vrais moments de complicité avec ce personnage et c'était hyper touchant. Et là on peut aussi en revenir aussi d'ailleurs au fait de jouer en marathon. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'on se plonge vachement plus profondément aussi dans le personnage à force. Là où peut-être dans une des plein de petites sessions de 4 ou 5 heures, il y a le temps de démarrer, il y a des fois où on sort un peu, et donc, mais là, le fait d'être en marathon, le temps de démarrer, mais après, en fait, on est de plus en plus dans le personnage. Et là, c'est arrivé en fin de session. C'est arrivé en toute fin de session.
Il faut préciser qu'il était vraiment tard, on était tous très fatigués aussi, et ça joue
inévitablement.
Ah bah oui, sur la fatigue, ça exacerbe, enfin, on met moins de filtres, on réfléchit moins. Donc la PLS la plus totale, je rejoins le sentiment d'impuissance qu'a exprimé Adrien, mais surtout...
Je continue à dire que certaines tables ont réagi et ont sauvé Gladius. Hein. C'est vous qui n'avez pas réagi.
Oui, mais clairement, mais du coup,
non,
ça nous
c'est
interroge.
Totalement faux. Ils me l'ont tous dit que c'était faux, Gladius meurt quoi qu'il arrive. Ils me l'ont dit.
Oui, alors j'ai amené un joueur à la semaine sans et les autres masters m'ont balancé en disant que c'était totalement déterminé et qu'il n'y était pour rien.
Oui, mais maintenant j'arrive à dormir le soir.
Le fameux TGCS.
Non, mais donc il y avait ça. Moi en plus, personnellement, c'était. Moi j'ai eu une manière très très visuelle de jouer. Je m'imagine vraiment très très visuellement ce qui se passe. Donc déjà, je l'ai vécu carrément comme un traumatisme pour mon personnage. Et j'étais bien content de l'existence de la X-Card à ce moment-là. Parce que juste après, il y avait l'enterrement. Et évidemment, le plus logique, c'était que ce soit le personnage le plus lié à Gladius qui fasse devant tout le monde, pour tous ses frères Bug, un discours sur ce père disparu. Sauf que moi, ça m'a posé quelques petits problèmes, parce que du coup, ça a fait écho à une situation qui est quasiment trait pour trait pour, comme celle-là. Et c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore fait le point personnellement. Dans ma... Je l'ai fait, je l'ai déjà eu fait. Mais alors là,
non,
j'ai
mais
pas très envie de le refaire. Quoi.
C'est pas forcément utile de rentrer dans les détails, mais voilà, non, ça mais fait voilà. Quoi ta vie perso.
Mais du coup, je l'ai vécu, donc, j'ai vécu cette histoire très très intensément. C'était très beau, quelque part, comme expérience à vivre. Mais bon, j'étais bien content de pas non plus me foutre en PLS psychologique réel. Quoi. Donc,
bon, c'est pas le but après, hein, de non, sens, clairement. Alors, je sais que certains maîtres du jeu sont pas pour. J'utilise une X-Card à sens. Parce que je pense que voilà, c'est bien de protéger ses joueurs, et là c'est l'exemple parfait où on ne se connaissait pas encore assez pour que je sois au courant de cette histoire, et j'aurais pu faire très très mal à un joueur s'il n'y avait pas eu cet outil, donc je suis très content qu'il était là.
Oui, parce que clairement, pour la suite, ça aurait changé beaucoup de choses, pour moi.
Ce qui est normal.
Parce que je pense que je serais devenu réfractaire un peu à une certaine forme d'immersion, puisque... Alors que là, non, clairement, on se plonge dedans systématiquement, corps et âme, et on adore ça.
Puis il y a encore autre chose par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est aussi un avantage au marathon et à ce jeu simplement, c'est que, on est devenus amis aussi. Enfin, il y a quelque chose, il y a une confiance aussi qui s'est créée. À chaque fois qu'on se voit en marathon, on commence pas le jeu tout de suite, on discute pendant une heure, deux heures, on se prend des nouvelles chacun, et ça fait qu'il y a une relation de confiance beaucoup plus grande dans le jeu et qu'il n'y a plus ces problèmes là.
Là je pense que ce que tu dis, ça va faire très très plaisir à Rome qui répète à l'envi que Sens est un jeu pour se créer des amis.
C'est
un
ça.
Jeu d'amis en fait.
Ouais, ouais.
Et en tout cas, je pense se dire autour de cette table, ça a bien marché.
Oui.
À part le MJ, moi je vous apprécie tous. Hein.
Et moi j'ai pas le droit à la X-Card, il paraît.
Une petite
si on revient sur cette
larme.
Larme, il me semble que ça a été la seule et unique, compte tenu de sa présence et qu'on le sache, il me semble que c'était la seule et unique fois qui a été utilisée.
Bah, en fait, je ne vais pas proprement parler utilisée, c'est que moi, pour le
non,
coup,
moi,
j'ai eu le. Enfin, je me suis senti suffisamment à l'aise pour directement en parler. J'ai pas vraiment à proprement parler utilisé la X-Card.
Mais bon, c'est vrai, après oui, je crois qu'on l'a pas utilisé une seule fois,
on
la
pas
X-Card.
Utilisé une seule
mais
fois.
L'utilité de la X-Card, c'est de pas s'en servir. Enfin, c'est un outil de sécurité émotionnelle. Mmh. Si tu t'en sers, c'est qu'il est déjà trop tard. C'est bien de pas avoir à s'en servir. Mais c'est vrai que là, tu aurais pu l'apprendre, bon, tu t'es exprimé autrement, c'est très bien, et voilà. Bah, mais.
L'importance de la X-Card, c'est qu'elle existe. C'est pas
c'est
qu'on
ça.
L'utilise en fait.
C'est la ceinture de sécurité
oui,
en voiture.
C'est, c'est le harnais de sécurité, c'est le fil qui te retient quand tu fais le funambule. C'est le...
Mais c'est surtout la carte qui te dit bah voilà, j'ai conscience de ça, et donc je ferai attention à ça. Enfin, il y a. Normalement, comme tu dis, on va pas l'utiliser pour ça.
C'est ça, c'est pas le but. Bref, qui on n'a pas fait dans le conseil? De qui on n'a pas parlé?
Michel Cetra.
Michel Cetra. Spécial casse dédié à Jay, donc on est tous d'accord pour dire c'est le perso le plus inutile du conseil.
Oui.
Voilà, maintenant je vous laisse donner vos impressions sur Michel.
Pour moi, Michel Cetra, c'est un peu l'oncle. C'est-à-dire qu'on a Maria qui est tata, et on a Michel Cetra qui est plus l'oncle. L'oncle.
Le tonton.
Le tonton, c'est ça. Le tonton un peu suisiste en fait, tu sais, un peu genre je fais ce que je veux, je me pose à siroter mon vin. Non, c'est quoi? C'est du champagne qu'il ramène tout le temps?
Du ski.
Champagne.
Je sais pas, mais là tu viens déjà d'insulter tous les sudistes donc.
C'est ça.
Tant qu'on y est.
On va la refaire.
On remarque, non. C'est quand même le mec qui vient du Jura qui dit tout ça. Hein. Mais on boit pas du vin dans le sud.
C'est rosé.
Voilà.
Sinon, c'est du pastagan.
Non, mais en fait, ses seules apparitions, c'était après la mort de Gladius, quand on a fait, après l'enterrement, qu'il nous a ramené ses bouteilles, parce qu'il voulait qu'on boive pour oublier.
Pas que.
Il y a eu...
Un jour, on a fêté nos 18 ans.
Bon, enfin, est-ce que c'est vraiment super Céleste. Intéressant?
Non, on s'en fout.
C'est...
Est-ce que c'est pas juste... Ouais, en même temps, l'amour, c'est relou.
Michel Cetra, en fait, c'est juste le gars qui est là pour déconner, vous amener... J'arrive pas à le jouer autrement. Je sais qu'il y a d'autres masters et d'autres tables qui le rendent super intéressant, super profond. Moi, je sais qu'il reviendra peut-être avec un intérêt, mais pour le moment, sincèrement, Michel Cetra, il représente juste le côté humain.
Ouais.
Et oui, quand ça. Il s'emporte un peu au conseil après Wilfried, quand il s'emporte... mais c'est tout, quoi. J'arrive pas à le jouer, j'arrive pas à le rendre intéressant, ce personnage.
Bah, en plus, on a eu zéro interaction, quoi. Vraiment zéro.
Pas beaucoup.
Non, mais en fait, c'est le tonton un peu bonard, quoi.
Ah oui,
c'est ça. C'est
clairement, oui, ça, je voulais bien expliquer, mais j'arrive pas à le jouer, en fait.
Mais on n'a pas eu d'interaction vraiment avec ce personnage-là.
Si, un petit peu après la mort de Gladius.
Oui, voilà.
Où justement, il a pris. Et c'est là où il y a le côté tonton qui est ressorti. Ouais. Il prend un peu d'importance, il vous prend sous son aile, il vous bourre la gueule, hein, clairement. Mais voilà, il agit avec vous en vous disant, en gros, mais je vous comprends, quoi. Mm. Je sais que pour vous, ça doit être dur. C'est une caution humaine, en fait, un petit peu dans ce conseil.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Mais après, effectivement, on n'a pas trop... Enfin, voilà, on n'a pas tissé de lien.
Chrysaor Orion, pareil, je crois que j'ai pas trop su le faire jouer...
Mais en vrai, on n'a pas beaucoup eu d'interaction avec le conseil en tant que conseil, mais plus les membres, mais en tant qu'eux-mêmes en fait. En tant que personne à part entière plutôt que le conseil. On sait.
Ouais, c'est vrai.
Ça, et on en arrive à Wilfried. On en parle de Wilfried?
Wilfried.
C'est marrant parce que Wilfried, ça a été vraiment une espèce de balance, de. Comment dire? Au départ, on n'avait pas trop confiance en lui parce qu'en effet, lire un poème de lui et tenter de se suicider juste après.
J'ai failli mourir, j'avais une respi en protection, mais.
Oui, mais bon, voilà, t'étais pas. Hein. Donc il y a ça, donc forcément, ça inspire pas trop confiance, et puis ensuite, on le rencontre et. On voit qu'il nous aide comme il faut parce que sans lui, je pense qu'on y serait passé.
Ça aurait été très difficile.
Même sur graveur, hein, pour le coup.
Ouais, c'est ça, sur graveur.
Il était pas bien. Hein.
Ouais, bah lui, il a encaissé. Hein.
Après, j'ai encaissé.
Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez dit? Parce que c'est une phrase qui, pour moi, est importante dans le sens. Le bibliothécaire dans l'épreuve du poète.
Le monstre.
La responsabilité de l'artiste par rapport à son livre. À son œuvre, pardon.
Qu'est-ce qu'il nous a dit?
Vous savez qu'il dit que vous ne pouvez pas tenir l'auteur de ses poèmes pour responsable,
ouais.
Parce qu'une fois qu'il les a écrits, ils ne lui appartiennent plus, ils appartiennent à son public.
Ouais.
Alors d'un point de vue purement métaphorique, et philosophique, oui, effectivement. Mais là, on parlait de poèmes quand même que quand on les lisait, ils te forçaient à te suicider.
Oui, mais après, en effet, tout ce qui est artistique comme...
Mais après, on peut se poser la question, parce qu'il peut très bien exister une œuvre, pas forcément magique, au sens littérale du terme, même si c'est bizarre de parler de littéralité pour la magie.
Il y a une légende qui est une légende urbaine, hein, mais qui court en disant qu'il y a des gens qui se sont suicidés à la première exposition du cri de Munch. J'arrive pas à comprendre pourquoi, mais voilà, c'est une légende urbaine. Est-ce que Munch est responsable ?
Non, non. Parce que l'art, enfin, c'est comme tous les trucs dont on parle, l'art, ça n'est rien s'il n'est pas observé. Donc ça veut dire qu'à un moment, c'est la personne qui observe qui crée l'art aussi. C'est la rencontre de sa subjectivité avec la subjectivité de l'artiste qui crée l'œuvre. Donc à ce moment-là, elle est interprétée selon la personne, elle n'est pas interprétée de la même manière, selon la force psychique, psychologique de la personne, on ne peut pas avoir les mêmes réactions. Donc après, est-ce qu'il est responsable de ça ? Ça dépend aussi de la nature en fait, de ses poèmes.
Peut-être de l'intention à la base.
Mais de toute façon.
Comme on en a déjà discuté, l'art n'est pas forcément là déjà à la base pour apporter des réponses, mais pour faire se poser les bonnes questions, ou des questions en règle générale.
Totalement.
Donc après, la réponse qu'en apporte le spectateur, ou celui qui appréhende l'œuvre, ben, ça lui est propre.
Mmh. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose dont il est important de parler dans Renaissance ?
Le fait qu'on découvre aussi qu'il existe d'autres bugs que nous ?
Qui sont pas nés le même jour, non ?
Si, il était...
Lui, il était né le même jour. C'est juste que lui, on l'a oublié. On l'a laissé sur place.
Tu parles de You Like.
C'est ça.
Que vous avez découvert à New York.
Oui.
Dans l'épreuve de graveur.
Oui. Personnage très désagréable. Pour mon personnage.
Pourquoi ?
Je sais pas, mais j'ai souvenir que j'avais envie de le taper, mais en fait, en même temps, est-ce que...
Mais toi, t'avais envie de taper tout le monde, mec, de toute façon.
Non, que les gens insupportables.
Alors, en tant que master, je reconnais que t'avais envie de taper tout le monde.
Oui, Jalen voulait souvent taper des gens. Mais il s'est calmé, depuis.
C'est ça, il s'est rien passé d'autre de notable dans Renaissance.
Ouais, on va dire qu'avant, tu voyais rouge, maintenant, tu vois bleu, quoi.
Ah bah, bravo le spoil. Bravo.
Si, joli, si, joli. Si,
je valide.
Oui, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose, a carrément oublié quelque chose aussi.
Ah hein, oui, tiens,
oui.
Qui était bien, qui était primordial avant que j'en parle.
Eh, c'est pas
Baptiste, tu es le joueur qui a eu une relation avec Sauveuse.
Sexuelle.
Enfin, Céleste, mais qui est ma version de Sauveuse.
Tout à fait. Bah, c'était à Aqua City, quand Nedemon Classis demandait en fait à Adrien de... Enfin, pas Adrien,
Marek.
D'aller voir dans la cour.
On
va
se poser la question maintenant.
D'aller voir dans la cour parce qu'il y avait quelqu'un qui combattait. Du coup, on avait échafaudé un plan pour aller justement voir cette personne et essayer de la capturer. Voir. Enfin, peut-être pas la capturer en toute connaissance de cause, mais vraiment essayer de la.
Peut-être de lui parler.
D'avoir plus d'informations sur elle, voilà, de lui parler. Tout à fait. Il s'est avéré que le jour 2, je n'étais pas présent. Mmh. J'avais fait une petite escapade champêtre avec Céleste.
Champêtre, c'est comme ça que c'est comme ça que tu le définis, toi.
Disons qu'on a exploré les deux mondes, chacun à notre manière. Donc voilà, c'est là où j'ai fait plus ample connaissance avec Celia, enfin au point où voilà, on a.
J'ai fait plus ample connaissance. Et c'est hyper dégueulasse ce que tu dis. Tu ne peux faire connaissance.
Gentleman.
Ouais, bah ouais. Tu ne peux faire connaissance avec la personne que par le biais du sexe. C'est horrible comme vision. En plan. Oh.
Sachant que.
Bah il avait une respi.
C'est vrai.
Donc il peut avoir une prétention à la hauteur de celle-ci.
Sachant que j'avais. Enfin, du coup, qu'elle m'avait parlé quelques jours avant et qu'elle m'avait fait ça, une très très grosse révélation pour moi.
Un petit coming out.
C'est que Céleste, donc sous le nom de Célia, que je connaissais sous le nom de Célia, en fait s'est transformée devant moi et est devenue un quadrilla bleu électrique. Donc, sur mes réactions à ce moment-là, c'est que bah, dans un premier temps, j'ai fait un mouvement de recul. Enfin, j'étais préparé au combat, mais. Sans plus.
C'est comme ça que tu le définis, toi. Non, rien.
Allez, enchaîne. Vous allez l'écouter pas. C'est... Tu sais que c'est un mauvais esprit, Cédric.
C'est clair.
Donc, j'ai eu un premier mouvement de recul prêt à combattre. En fait, je me suis rendu compte que finalement, elle voulait pas me faire de mal. Parce qu'elle avait toutes les occasions du monde. Si elle avait vraiment envie de me tuer ou de me faire du mal dans le sens général du terme. Elle avait eu plein d'occasions auparavant, bah dans les à Aqua City quand on était dans nos box respectifs, qu'elle venait me voir le soir, quand on était au bar, ce fameux soir-là où elle se transforme devant moi. Ouais, ça a été déjà un sacré événement qui s'est concrétisé donc quelques jours plus tard par
une relation sexuelle interespèce. Voilà. Appelons un chat un chat.
Voilà, une fois du côté réel et une fois
du côté
de ma réalité et une fois du côté de sa réalité.
Et vice versa.
C'est ce que je viens de dire.
Non.
Ouais. Si.
Et donc.
Ah si.
J'ai donc été absent à l'appel pour la capture du, enfin la tentative de parole avec le personnage dans la cour.
Heureusement qu'on n'est pas mort.
Mais après ils m'ont raconté leurs exploits, comme quoi cette personne était très très rapide.
C'était plutôt un échec du coup.
On est plutôt parti sur un échec.
Oui.
C'est ce soir-là.
Oui, c'est n'empêche la fois où on a été le plus proche de l'attraper.
Oui.
À moins de 5 mètres derrière lui.
C'est pas mal.
Bah, c'est, oui.
C'est ce soir où justement bon, lui était dans l'ombre monde, enfin que Jaden était dans l'ombre monde en train de l'attendre et qu'au moment du passage dans l'ombre monde il s'est retrouvé face à face puis il a changé de direction.
C'est ça. Donc en fait, oui. Bon, après ça, tous les joueurs, tous les masters, tous les joueurs savent ce qui se passe dans ces moments-là. Ils essayent d'attraper Phil Longfinger, évidemment, ils n'y arrivent pas sans savoir à l'époque c'est Phil Longfinger. Mais ce qui m'intéresse, c'est ta relation avec Célia. Avec Céleste, en fait.
À ce moment-là, tout a changé, parce que du coup, en fait, je commençais un petit peu à comprendre que les Cadriens ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent nous faire croire. Parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, elle avait tout le temps de me tuer. Si vraiment elle en avait après moi, elne l'a jamais fait. Moi ou mes autres frères Bug, d'ailleurs. Parce qu'elle les a côtoyés aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent à ce moment-là. Et là, elle m'a fait faire une promesse, qui était que le moment venu, elle allait me demander de faire quelque chose de très important, à savoir, est-ce que je l'ai su à ce moment-là, est-ce que c'était exactement la demande ?
Non, je ne savais pas la demande. Tu savais que tu ne voudrais pas y répondre, tu ne serais pas d'accord pour le faire, mais que
je devais le faire.
Elle attendait toi que tu le fasses.
Voilà. Pour elle, ça prouverait l'amour que j'ai pour elle.
Oui.
Et donc, à Berlin, pendant la bataille finale, après le premier événement, il y a eu...
L'événement.
J'ai même parlé d'événements, rebondissements. En fait, ah oui, au moment d'approcher, parce que Finlong était en main avec Kranisten, je crois, et nous, on voulait venir l'aider pour l'aider à combattre. Et en fait, Céleste est apparue devant moi en quadrilla, et là, elle m'a fait la demande qui était de la tuer, ici et maintenant.
Et tu as décidé de
presser la détente.
Mais là, pour le moment.
Après, quand même, 3 à 4 secondes d'hésitation.
Oui.
Ça, c'est l'amour.
Les 3-4 secondes, c'est l'amour. Le reste.
Vous êtes super dur avec lui parce que je le mets quand même face à un dilemme qui est.
Non, mais en plus, là, ce que les gens ne savent pas encore, c'est que l'état de PLS de son personnage est aussi généré par un autre événement, effectivement, qui avait eu lieu 2 minutes avant. Jaden n'était pas super copain avec les Cadria.
C'est le moins qu'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il employait même des termes racistes pour parler d'eux.
Oui, clairement.
Les bleus, les...
Ouais, certainement ponctué de quelques insultes qui traînaient par-ci, par-là. Pas d'exemple typique. D'ailleurs, ça a donné lieu, avec le recul, à une scène complètement épique de joutes verbales de différents points de vue, du point de vue de Célia et du point de vue de Jaden, sur les Cadria, où en plus, lui, se trouvait une légitimité énorme comparée à elle, puisqu'elle n'en avait jamais rencontré. Sauf que il ne savait pas tout.
C'est ça.
Il ne savait pas tout, et puis il s'est passé quelque chose pendant la bataille à Berlin, qui a priori au début bataille comme on en a connu quelques-unes déjà sur Terre. Moustachu un peu la bataille quand même, enfin en tout cas ce qui s'en est passé. Jaden protège ses deux frères comme il peut. Grosse force de frappe en face.
Oui, c'était les machines de l'Empire à ce moment-là.
Les machines de l'Empire, oui, qui m'ont bien rointé la face. Jusqu'à un certain point où, là, le moment fatidique, deux robots avec des lames en scie circulaire qui allaient te faire du mal pendant que tu étais en train de mettre en place un truc. Je sais plus ce que c'était ta machine.
On s'en fout.
Mais c'est pas l'important. Donc Jaden fonce, passe dans l'ombre monde, revient, explose un des robots. Bloque le coup du deuxième, sa resplie se brise et se fait couper à moitié en deux et meurt. Enfin, meurt. Voilà, oui, ce stade-là, il n'était pas pour vous. Vous aviez encore un peu l'espoir, quoi. Comme quand on voit quelqu'un se prendre une balle dans la tête et qu'on espère qu'il va se relever. Mais bon. Akora passe en mode il faut péter le robot. Marek se met carrément en danger pour récupérer mon corps. Puisque tu t'es jeté sur le robot sans trop réfléchir, juste pour m'attraper et me mettre en sécurité. Sauf que, a priori, je décède. Je décède. Donc, première PLS psychologique de mes frères qui se font attaquer juste après par un quadrilla de vie. Donc, Marek essaye de vite retourner aider Akora qui vient de se faire attraper, qui est en train de se faire étrangler à plusieurs mètres au-dessus du sol. Sauf que c'est à ce moment-là que son attention est attirée par un éclair bleu qui foudroie en fait le corps de Jaden qui n'est plus là et qui laisse place du coup à un quadrilla de vie qui ressemble étrangement, qui tend la main vers lui et qui prononce les mots de... Enfin, un mot, disparaît, il resserre le poing et le quadrilla de vie se pouche. Et juste après, Célia démarre.
Moi, j'ai trouvé sa classe, quand même.
Non, c'était classe.
La transformation, j'avais trouvé classe.
C'était classe. C'était pas mal.
Et puis, j'avais douillé en mon point d'ombre pouvoir pour faire ça, à distance.
Oui, ça t'avait coûté cher.
Mais c'était classe.
Mais c'était cool.
Donc voilà, donc Baptiste...
Donc, après apparition de Céleste, où je suis obligé de tuer Céleste, du coup, pour lui prouver que je l'aime vraiment, même si ça s'est pas fait avec beaucoup de joyeuseté et de...
Sans blague.
C'était pas le but.
J'ai vraiment pas aimé ce moment, mais du coup, de toute façon, il y avait ce qui venait d'être fait est fait, et dans tous les cas, il fallait aider Finlong aux mains de Krennistel, mais ils étaient enfermés dans une bulle blanche, et là, on a vu la scène où Krennistel se donne à Finlong en prononçant les fameux mots, comme quoi, en nous expliquant.
Quand c'est après. Une fois qu'il est vaincu.
Oui, c'est ça, une fois qu'il est vaincu, il y a eu quand même un combat assez épique entre les deux. Un
combat assez épique, et on aurait vraiment voulu être là, mais on faisait clairement pas le poids à ce moment-là.
Bon, on était là,
Oui, on regardait.
En soutien, quoi. Ouais.
Vas-y.
En pom-pom girl, un peu, oui, c'était...
Allez, Finlong.
Attention, il va t'en mettre une par la droite. Ouais. Voilà, donc fin de renaissance. Alors, est-ce que toi, déjà, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, ta relation avec Céleste? À part des larmes au moment de la tuer?
Ouais, ça a vraiment apporté quelque chose, déjà en termes de réflexion, parce qu'en fait, avec toutes les informations que j'ai sur elle ensuite, du fait que c'est un quadrilla, du coup on comprend qu'en fait, les rencontres que j'ai avec elle dans le bar, en fait c'était pas elle, c'était une autre personne, mais qui avait le même collier que je lui avais offert.
Qui essayait de me pécho.
Qui essaie de te pécho, qui vient ensuite vers moi, et en fait, je me rends compte plus tard que c'était elle qui me faisait passer une sorte de test, que j'avais réussi haut la main, d'ailleurs.
Oui, elle est assez cabotine, hein, quand même. elle est joueuse, Céleste.
J'avais également fabriqué dans ma chambre, et ça, vous l'avez jamais su.
Ah.
J'ai fabriqué dans ma chambre, en fait, deux anneaux, dont un. En fait, ces anneaux se mettent à vibrer quand l'un des deux est en danger.
Ah ouais.
Donc l'autre anneau se met à vibrer quand l'autre est en danger.
Tu me fais des cachets comme ça.
Comment t'as fait ça?
En fait, j'avais...
Le talent. Fabriqué le ça. Talent.
TGCS.
TGCP.
Non, le MJ. TG, c'est le MJ.
Ta gueule, c'est Philonite.
Ah. Et aujourd'hui, cet anneau, je le porte toujours. Et j'attends désespérément que... Non. Enfin, mais ça, on le saura dans un prochain épisode. Mais ça a été une de mes plus grosses créations, ça a été ça, quoi.
Et on n'était pas au courant.
Ouais.
Ouais, super.
Et toi, Cédric, ça t'a apporté quelque chose de devenir quadrilla? À part de la couleur.
De la couleur, ouais, après 2-3... Ouais, après c'est pratique pour recharger son téléphone.
Merci Cédric pour cette analyse en profondeur.
Non, pour le coup, par contre, sur en termes d'évolution du personnage, lui aussi, gros mindfuck et PLS mental, il devient un petit peu juste la créature qui ne rêvait que de détruire, remise en question de lui-même, de ses motivations, de ses motivations, pas tant que ça, mais d'un point de vue identitaire, c'est un petit peu le bordel, quoi. D'autant que, il y a plus de quadrilles. Officiellement, fin de Renaissance, il est le dernier quadrilla de vie sur Terre et probablement de l'univers à ce moment-là. L'entièreté de l'humanité le déteste. Sauf bon, peut-être voilà, ses frères.
Il y a tes frères Bug qui encore, ça va, ils ont compris que c'était toi, donc ils te détestent pas trop.
Ils me détestent pas trop.
Ça va, on t'aime bien, on t'accepte. Enfin, pas dans ce sens-là.
C'est fou comme certains termes ne veulent plus jamais rien dire la même chose. Mais au sein de la résistance, pour le coup, c'est pas glopi-glop, quoi. D'autant que après j'ai eu le droit à une discussion avec Finn Longfinger où ça a été.
J'ai envie que tu nous en parles parce que c'est un moment très sympathique.
Ben, pour le coup, alors c'était un mini, en fait, c'est une scène, en fait, plus qu'un scénar. C'était vraiment une scène qui a surtout aussi permis d'être un peu un débrief de la fin de Renaissance. Parce que ça impliquait pas mal de choses pour mon personnage, quand même, ce changement d'état. Donc j'avais exprimé le besoin de me mettre au clair avec la résistance en tant que joueur, parce que je trouvais ça cohérent. Donc on avait fait, du coup, Finn Longfinger a accordé à Jadon un entretien en tête-à-tête. Enfin, tête-à-tête. Il y a bien quelqu'un qui est venu s'immiscer dans la tête de Jadon à certains moments, mais... Enfin, la tête de Jadon. Bref. Donc effectivement, pour...
Je remercie François pour m'avoir aidé à ce moment-là. François Newtou du forum.
Et donc du coup, discussion entre Finn Longfinger et Jadon, qui partait pas forcément gagnant à la base, un peu la queue entre les jambes quand même, au tout début en tout cas, c'était vraiment son objectif de montrer patte blanche et d'exprimer le fait que c'est pas parce qu'il était devenu, semble-t-il, un quadrilla, que ça ne faisait pas de lui un bug et un membre de la résistance et que ses motivations étaient toujours les mêmes.
Enfin, Finn n'était pas convaincu au départ.
Finn n'était pas du tout convaincu. Et au début, oui, il a accepté de se prendre les remarques désobligeantes au début, jusqu'à ce que le sujet de Gladius arrive sur la table. Et là, ça n'a pas été la même. Là, la discussion est devenue très, 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 très... On n'était pas loin de l'acceptation, hein, quelque part. Est devenue très, très tendue, puisque là, pour le coup, Jadon ne s'est absolument pas laissé insulter gratuitement. Et surtout sur si ça bafouait la mémoire de Gladius, en tout cas de son point de vue à lui. Finn Longfinger a quand même balancé sur la table l'inaction des bugs et surtout de lui. D'ailleurs, il a remis en question le fait que c'était peut-être même volontaire et qu'il savait qu'il allait devenir un cadré ou qu'il en était peut-être déjà un à ce moment-là. Et là, ça va passer. Et là, il a osé remettre en question totalement Finn Longfinger sur ses propres manquements. Déjà, très bien, et vous étiez où?
En train de me remettre du blessure de guerre.
Et alors? Enfin, on a tous été blessés, on a tous été... Si vous aviez été présent, vous auriez peut-être pu sauver Gladius aussi. Et surtout, là, vous imaginez que votre fils est mort, en vous pensant mort, alors que pendant tout ce temps, vous étiez en vie, et pas loin de lui.
Ouais, c'était une scène
assez intense. Il y a eu plein de choses comme ça, de manquements sur le truc. Finn Long remettait en question le fait que c'était plus impactant pour lui que pour Jadon. Alors que si lui avait perdu un fils, lui avait perdu un père.
Et il y avait un certain classis qui venait troller la discussion.
Oui, et qui était plutôt d'accord en fait, au final, avec ce que balançait Jadon, oui. Les trois quarts du temps. Le mettait un peu en garde. Non. Il a sa langue à fourcher, il a voulu mettre en garde Cédric.
Ah bon?
Ouais.
C'est une erreur de François quand il tapait.
À tous les coups, ouais.
Le média ne le permettait pas de faire ce genre d'erreur. Si ça avait été à l'oral, ça aurait pu être interprété en tant que tel. À l'écrit, c'est pas possible.
Aussi, tu n'appuies pas assez sur la touche retour, t'effaces pas assez.
Parce que cette erreur a eu lieu quand même au milieu d'une phrase de plusieurs lignes.
Bah oui, ça arrive.
Où Classis dit oula, c'est petit point. Jadon devrait faire attention quand même, hein. C'est un petit peu l'incarnation de la mort qu'il a face à lui.
C'est vrai que c'est un petit peu. Il a pris le temps d'écrire les trois petits points, quoi.
On a bien compris que c'était volontaire, hein, par la suite. Non, et puis ça a été assez houleux, mais finalement ils sont plus ou moins arrivés à un compromis. Ils sont restés d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord, mais qu'il était prêt à croire que mes objectifs étaient bien les siens. Et donc, pour l'instant, il me tolérait au sein de la résistance. Mais il a été écrit dans la narration que quand il est parti, il avait un léger sourire de satisfaction de cette discussion. Donc, voilà.
Ok, est-ce qu'on a fait le tour pour Renaissance ?
A priori, je dirais
que oui.
Moi, par contre, ce que je me souviens, c'est juste après la discussion que tu as eue avec Finn, c'est Cédric qui parle à Baptiste et qui retranscrit ce qui vient de se passer, sauf qu'à mesure qu'il est en train de retranscrire ce qui se passe, les messages s'effacent petit à petit.
Alors attention, je te prends un témoin, je n'étais pas en train de te lire mot pour mot.
Non, c'est vrai. Il est en train de me retranscrire ce qui s'est passé.
Pour essayer d'être sûr de ne rien oublier. Mais je n'ai rien oublié des interventions de Classis. Par contre, c'est bizarre. Dont d'ailleurs, un petit truc que personne à part Vincent et moi sommes au courant.
Bah,
à propos de mon personnage. Non, je ne tiens pas à le dire.
Ah.
Ok, très bien. Ça se la joue perso, ok, très bien.
Bon. On passe mort, on essaye de faire ça vite, parce qu'en général, quand on raconte la fiction, c'est chiant pour les auditeurs.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que... Peut-être, bon, mort, on a joué By the Book, à part un scénario.
Le tout premier,
qui, pour mettre les bugs dans l'ambiance, en fait, je les envoie dans une télé-réalité complètement débile. Voilà, qui n'a pas grand intérêt à part leur expliquer un peu l'esprit qu'il va y avoir sur Séléné.
Mais pas grand intérêt, il y a une des personnes autour de cette table, ça a eu un gros impact quand même sur, oui. Le reste de sa partie.
Ils ont des valeurs à défendre, tu comprends ?
Ouais, bon, c'est pas forcément...
C'est pas très intéressant.
En fait, on peut peut-être directement faire...
Mais vas-y. Moi, j'ai juste... est-ce que c'est pas intéressant de parler de comment on l'a joué, celle-là, du fait de la distance géographique ?
Ah oui. Alors...
Mais après, en même temps, ça s'y prête, j'ai l'impression.
La première, toi, tu l'as pas joué, celle-là.
Eux, ouais. Ils ont fait la télé-réalité, et moi, j'ai fait solo avec Mifos. Là.
Mais oui, en fait, je t'ai fait jouer une épreuve qui, normalement, est prévue avec tous les bugs solo.
Exactement.
Était un peu violente. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, on a joué par Skype.
Ouais, c'est ça, on a joué par Skype.
En solo par Skype.
Pour avancer un peu.
C'était l'épreuve où Mifos vient récupérer la rune de mort.
C'est ça.
Et Wilfried en même temps. Voilà. Et où tu t'es retrouvé seul face à Mifos, Hydrogène et Hélium.
Voilà. Mais c'est un petit peu comme ce que je disais en fait tout à l'heure là, sur le sentiment d'impuissance qu'on a pu avoir à la mort de Gladius. Bah là, j'ai un peu retrouvé un peu ce sentiment d'impuissance où j'étais là comme un con tout seul, peu importe ce que je faisais, je ne pouvais.
Là, t'es dur parce que t'as rien essayé de faire.
Franchement, à chaque fois, en fait, c'est pas ça. C'est que je me disais, bon, alors si je fais ça, ouais, non, en fait, il va juste faire ça et c'est bon, il va juste claquer des doigts et je vais me retrouver comme un con. Et en fait, j'ai été pris par le temps, enfin, j'ai vraiment eu cette sensation aussi. Évidemment que j'aurais pu essayer plus de trucs. Mais je savais parfaitement que si j'arrivais, que je fonçais vers lui pour, je sais pas, lui foutre un coup de poing enflammé de je ne sais quel fait de cellulis, ça n'allait pas faire grand-chose.
Non, c'est sûr.
Je me sentais un petit peu piégé bizarrement par le scénario qui avait prévu que de toute façon, j'allais me faire latter les couilles.
Voilà. C'est pas faux. C'est pas fou.
C'est pas toi qui t'es fait latter par des quadrillades.
Globalement, à part ces deux changements, ils ont vécu mort comme tout le monde.
Il y a une partie du scénar qui Adrien n'a pas joué du coup.
Oui.
Mais on lui a tout retranscrit.
Voilà.
Assez fidèlement.
Qu'est-ce qu'il y a eu de notable ?
C'est comme si je l'avais joué en fait. Pour le coup.
En fait, au niveau, moi j'ai joué relativement By the Book. Simplement, ils se sont pas vraiment intéressés à Julio et Julia. Donc ils ont laissé ça en suspens. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable.
Bah, on a libéré.
Après, c'est mort, hein, c'est mort. Donc ils ont morflé. Les joueurs, pas trop. Je pense que paradoxalement, je leur ai fait plus mal dans Renaissance que dans Mort.
Mmh.
Aux joueurs, par contre, les bugs, eux, ont bien morflé. Après, est-ce que vous voyez peut-être une scène notable par personne encore ?
Baptiste,
je peux en avoir deux.
Si tu veux.
La première scène notable, c'est dans Princesse Lanta, où en fait, ça a été vraiment
Comtesse Island,
Secret Lanta. Où là, vraiment, ça a été le premier point, un énorme point de réflexion sur toute la suite de mort. Donc, c'est quand, dans une épreuve, en fait, je vais jusqu'à dépasser mes limites. Que je vois.
C'est un scénario qui est un scénario perso que vous pouvez trouver sur le forum.
Et donc en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment dépassé mes limites pour en tant que joueur, donc en tant que ce que Baptiste ferait, pour gagner une épreuve et un jeu, c'est-à-dire jusqu'à aller tuer un enfant dans le ventre de sa mère.
Par accident. Et... Non, ne t'auto-flagelle pas trop non plus.
En fait, je rappelle qu'on est dans mort et que le joueur a décidé de bousculer une femme enceinte.
Épuisée.
Et que bah forcément, ça a mal tourné. Quoi.
Voilà.
Après, il a aussi décidé de livrer un enfant à un prédateur sexuel en sachant ce qu'il faisait et pourquoi il livrait cet enfant.
Ouais, mais toujours, en fait, vraiment dans cette optique de remporter l'épreuve, qui au final s'avère que je n'ai pas eu le point de l'épreuve.
Bah non, quand même, il y en a des valeurs.
Oui, les producteurs ont estimé que c'était vraiment trop choquant, étant des gens de valeur.
Non, c'est la mort du bébé, c'était choquant. Malgré qu'il ait réussi bousculer les gens et compagnie, ça va, mais le bébé, non, quand même.
Non, ça allait trop loin. Bon, ça allait trop loin.
Les enfants de buveurs mangeront, mais ils n'auront pas le point dans l'équipe.
Et en fait, vraiment, c'est pas l'action en elle-même, mais c'est tout ce qui en a découlé. Parce que vraiment en fait le soir en rentrant de cette partie, Baptiste, donc moi vraiment, était choqué en fait de ce qui s'était passé et j'étais vraiment pas bien par la suite, à un point en fait où les actions de mon personnage impactaient directement moi en tant que joueur, comme si je les avais fait moi alors que je les ai pas fait.
C'est marrant ça.
On espère. non mais c'est un problème, c'est aussi une des raisons d'être de la X-Card quoi. C'est que...
Mais j'en ai pas eu besoin en fait. C'est vraiment... Ok, j'ai été mal sur le coup 2-3 jours après. Enfin, pas sur le coup, mais en 2-3 jours après. J'ai vraiment été mal. Mais c'est... je l'ai pas vécu comme si j'avais vraiment fait moi, mais quand même un petit peu. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, que sens de via tes actions dans le jeu peuvent remonter jusqu'à ton toi personne en fait. Et c'est là où c'est beau.
Comme, oui, après, je pense que c'est le cas un petit peu dans tous les jeux de rôle. Et il faut encore une fois rappeler qu'on joue pendant des sessions très longues, donc les joueurs sont très fatigués.
Mais ça, c'est la session où on a fini à
6h du matin.
6h du matin, alors qu'on avait commencé à 11h le matin.
Ouais. Après, oui, il faut aussi garder à l'esprit que c'est un jeu qui peut te faire réfléchir sur plein de choses, mais ça reste un jeu quoi. Enfin, ce que tu fais dans le jeu, tu le ferais pas dans la réalité. Enfin, faut pas.
Oui, j'espère.
Ouais. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de le.
Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est que dans le jeu, tu arrives à dépasser des limites que toi, en tant que joueur, en tant que personne, tu ne le ferais pas.
Eh ben, du coup, au final, avec le recul, est-ce que tu trouves pas que c'est rassurant de savoir que toi, en tant que joueur, tu étais très mal à l'aise vis-à-vis de cette action-là de ton personnage?
Si, justement, c'est très rassurant. Mais ce qui est perturbant, c'est d'avoir vécu comme si je l'avais vraiment fait.
Perturbant.
Alors, ça, encore une fois, je pense que ça peut s'expliquer par la grande immersion dont vous faites preuve, ouais. Et par la longueur des sessions qu'on fait, parce que la fatigue, etc., c'est un phénomène qui est bien connu des GNistes. Il y a une perméabilité des sentiments entre le personnage et le joueur, et au plus on est fatigué, au plus ça arrive, et c'est là où, quelque part, il y a un vrai risque de se faire mal. Et tu vois, moi, quand tu m'en as parlé, ça m'a dérangé, parce que c'était pas le but. Que ton personnage agisse comme ça, ben, je lui ai fait payer les conséquences hein, dans le jeu, c'est normal, mais par contre... le but, c'était pas que le joueur se sente mal. Enfin, c'est un jeu. On joue à un jeu, on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment.
Oui, après, je l'ai pas ressenti mal au point de ne plus vouloir jouer du tout. Au contraire, en fait, ça m'a posé plein de questions sur l'immersion et sur l'intensité que mon personnage a sur moi, comme j'ai de l'intensité sur lui.
Ça, je suis entièrement d'accord. J'en dirai pas plus.
Et c'est là où je suis très content, en fait. Justement, ça fait ouvrir les yeux. Et après, le deuxième...
La deuxième scène.
Deuxième scène, c'est avant tout ça. quand... oui, c'était un sentiment de bonheur. Quand je retrouve en fait Seiya.
Le ridicule à cette scène.
Mais je t'interdis de dire que mes scènes sont ridicules.
Non, mais c'est pas ça.
Vas-y, raconte.
Mais oui, en fait, bah, j'ai Célia qui se... À notre arrivée sur Sélénée. Alors, je n'ai plus les circonstances exactes de tout ça.
Est-ce que tu veux que je te rafraîchisse la mémoire?
Je veux bien.
Nous sommes arrivés, donc, après notre atterrissage sur Sélénée, on est allé directement chez Lester et Uriel.
Ah oui,
on
ça y est.
On fait la rencontre de Lester et Uriel, on discute un petit peu. Anthony
descend,
premièrement, suivi d'une jeune femme qui s'exclame « Mon chouchinou !» avant de se jeter des escaliers directement dans tes bras.
Voilà.
Et chouchinou, c'est leur petit nom affectueux entre lui et Célia.
Je suis assez fier de ce petit surnom.
Bon, on a décidé de tous l'appeler chouchinou depuis.
Ouais, ça reste.
Et donc du coup, la suite de cette scène, c'est que du coup, bah, évidemment, Baptiste, bégaiement, hein, quoi ? Attends, mais oui, je suis trop contente et tout, tu m'as tué, c'est trop bien, tu m'aimes. Attends, viens, on va discuter. Et pff, il disparaît dans l'ombre monde. Monumentale erreur.
Il a découvert l'ombre monde de Sélénée.
Il y est resté seulement 3 secondes, puis est revenu dans la tout réalité, fumant. Tout fumant. Oh, mon Dieu,
c'est un
enfer. Et Célia qui a eu dire « Ah oui, je t'ai pas dit
!» Du coup, oui, bon, fait. Ça va, c'est le master qui a pas assuré. Le master aussi est fatigué après des sessions comme ça. Il faut bien le préciser.
Non, mais c'est pas grave, parce que ça a donné lieu à des scènes super marrantes.
Du coup, oui, on a préféré se retirer dans ma chambre.
Titre.
Non, pas besoin, parce que... Il n'y a pas besoin.
Ouais. Ok. Cédric, une scène ?
Une scène dans Mort, la scène où j'essaye de voir si on peut encore un peu discuter avec Finn Longfinger.
Après qu'il ait tué Soren ?
Après qu'il ait, par mes gardes, enfin, dans la précipitation de la haine qu'il avait pour Aiguilleur, qu'il ait tué de ses propres mains Soren, qu'il se relève, il se retourne et qu'il explique... dans le plus grand des calmes, bien évidemment, hein, qu'il allait mettre fin, un terme à la vie de toute chose qu'il croiserait. Que bah, mon personnage se disant bah, « je suis un quadrilla de vie, je suis peut-être le seul truc qui se rapproche le plus de Soren encore sur Terre. » Peut-être qu'il y a moyen de « ah bah non
». Non, il n'y avait pas moyen là.
Et là, il tend la main vers moi et me regarde droit dans les yeux en disant « je t'accepte ». Et c'est le moment où là, le joueur dit « oh shit, trop tard ». Mais non, une fois, deux fois, trois fois. Bon, c'est le moment où il a empoigné son épée que j'ai dit « bon, bah, c'est plus la peine d'essayer » et qu'il a fallu fuir très 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 vite. Bah, j'avais quand même demandé à ton personnage de se mettre en sécurité quand même avant.
Donc moi, Baptiste, donc Akora par définition, je suis sorti de la salle, enfin de la boule de Sphylonite.
De l'héritage, hein. Du coup, nous avons fui très 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 vite et on a enfermé Finn Longfinger. Et une fois que le danger était écarté, tout le poids de tout ce qu'on venait de vivre juste après est retombé d'un coup sur nos épaules. Et là, ça fait... Ouf.
Oui, parce que dans la même session, ils ont vécu la mort de Chrysaor, la...
mort de Maria Soren.
La mort de Maria Soren et l'enfermement de Finn Longfinger. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup et que c'est un des défauts des séances marathon, c'est que là, ça fait beaucoup à digérer pour les joueurs.
Ouais. Et on n'a pas ouvert cette porte numéro 12.
Et ils n'ont pas ouvert la 12e porte. Ils n'ont pas vraiment essayé. Sans doute que s'ils avaient essayé, ça serait ouvert.
On peut pas savoir.
Une scène, Adrien ?
C'est quoi cette air une scène, la scène dont je parlais tout à l'heure, qui est quand même une scène où je me suis retrouvé comme un con... face à deux quadrillas, à ces deux quadrillas de Cosmo, plus...
C'est beaucoup de révélations aussi dans...
Oui, beaucoup de révélations, et puis là... Ce qui était marrant, c'est que parmi les objectifs que je m'étais fixé juste avant la session, enfin quelques jours avant, j'avais regardé droit dans les yeux, en plus Vincent, pour lui dire un de mes objectifs, ça, c'est de rencontrer Miphos et l'exterminer. Bon... Deuxième partie, hein, on y est pas.
Ouais, un peu moins.
Hein.
Mais la rencontre.
La rencontre.
Parce que c'est pas une demi-victoire.
Ce qui est marrant, c'est que vraiment, voilà, j'ai mis cet objectif et la session d'après, j'ai rencontré Miphos et je me suis retrouvé comme un con. Face à lui et il y a eu beaucoup de questionnements qui se sont. Enfin, beaucoup de. Beaucoup de questions que je me suis posées, en tout cas.
Pour rappel, c'est le moment où Miphos récupère la rune de mort.
Voilà, c'est ça.
Et où Wilfried trahit.
Où Wilfried trahit.
Et rejoint, rejoint Miphos.
C'est ça. Voilà.
Et
ce qui a été très comment dire, compliqué à ce moment-là aussi, c'est que je me suis rendu compte que quand je parlais soit avec Wilfried, quand j'ai essayé de l'interpeller avant qu'il parte rejoindre Miphos, soit avec Miphos, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais que très peu d'arguments pour dire que c'était moi qui faisais bien finalement, et que je me suis rendu compte d'un coup que finalement depuis le départ du jeu, on avait juste accepté un postulat, on avait accepté que voilà, on était membre de la résistance, qu'on n'était pas des terroristes mais qu'on était membre de la résistance. On avait accepté...
Ça dépend du point de vue, ça.
Ça dépend du point de vue,
exactement. C'est justement ce qu'il dit.
C'est justement ce que je dis, c'est qu'on avait accepté que finalement on était les gentils, que les gens qui étaient autour de nous c'était des personnes bienveillantes qui cherchaient à faire des bonnes choses et que il y avait les gros méchants. Enfin, j'exagère, hein, je grossis le trait. Intentionnellement, qui voilà, cherchait à faire du mal et que nous, on allait essayer de libérer le monde.
Alors que Miphos, ouais, il cherche pas à faire le mal. Vous êtes pas ses amis.
C'est pas ça ce que je dis. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, je me suis posé la question de bah oui, mais en fait, on n'a jamais remis en question. Le point de départ, en fait. Et c'est la première fois où je me suis dit, tiens. Et si je remettais un peu en question les choses que je fais, pourquoi je les fais, qui sont les gens qui me poussent à les faire, qui sont ces gens, et c'est à ce moment-là, quand on parlait tout à l'heure de Soren, je n'ai pas douté de Soren, mais je me suis posé des questions sur justement, finalement, qui c'était en fait, quels étaient les intérêts de Soren qui est immortel, de nous aider, nous, simples bugs mortels.
Humains en règle générale, voilà. Tout simplement.
Et c'est là aussi que, je sais plus si c'est Miphos ou Wilfried a dit que les immortels devaient s'occuper des immortels et pas...
C'est Wilfried
qui a dit ça.
Qui a dit ça à Soren en lui reprochant justement d'avoir une relation complètement toxique avec son père, Littlefinger.
Bon, alors que bon, tout le monde est content dans cette relation, je vois pas ce qu'il y a de vraiment toxique. Si, tu vois quelque chose de toxique dans cette relation?
Ouais, très concrètement, elle a quand même... un usage très ustensile de Littlefinger dans définitive. Et lui, comme il est éperdument amoureux et que l'amour rend aveugle, il s'en fout. Et même ça lui convient bien, cette posture-là.
Ouais.
Puisque de toute façon, c'est l'incarnation de la réunion.
Mais enfin, en tout cas, c'était intéressant de voir, en fait. Et c'est ça m'a aussi... ça m'a pas aidé sur ensuite la manière de jouer cette fameuse scène de rencontre. Parce que j'étais là. Alors attends, ça fait beaucoup de révélations, beaucoup de questionnements, et on me demande en plus d'agir contre deux quadrillades de Cosmo qui viennent d'enfermer d'un claquement de doigts Littlefinger qui est en face de moi. Enfin voilà. Donc ça c'était intéressant. Mais d'un point de vue global, après moi ce que j'ai trouvé que Selene était un lieu très intéressant parce que des endroits comme. Comment ça s'appelle le Dreamstairs.
Dreamstairs,
c'est ça.
Ouais, des endroits comme Dreamstairs ou par exemple le jeu de télé-réalité qu'on fait Akora et Jaden, en fait, nous révèle vraiment beaucoup de choses sur nos vies réelles. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment réfléchir, en fait. Enfin, c'est typiquement des sujets, moi, qui m'interrogent depuis très longtemps sur le téléphone qui devient une extension de nous-mêmes et la télé-réalité qui nous abrutit et on se rend même plus compte que... Enfin, bon, bref.
On est là pour rendre du temps de cerveau disponible.
Ouais, oui. Mais là, de toute façon, très clairement, Séléné est une peinture presque pas caricaturée de la société actuelle, de la société occidentale moderne.
Et donc, moi, je dirais que, bon, certes, ce passage m'a marqué, le passage-là que je viens de décrire, mais, en fait, c'est le monde décrit simplement de Séléné, moi, qui m'a marqué, puisque j'y ai retrouvé, en fait, tellement de réel que...
Alors, maintenant que vous êtes dans la larme d'Azilis...
On est bien calé dans le réel.
Il va peut-être falloir penser à y retourner en sortant de cette larme pour finir ce que vous n'avez pas achevé.
Exactement.
Enfin, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira.
Ouais.
Non, moi, c'est juste sur le ressenti global de mort. Vraiment le ressenti de... On est insignifiant, on peut rien faire. C'est tout ce... Enfin, tout ce qu'on tente n'aboutit pas.
Et c'est, le pas totalement presque... vrai. C'est pas totalement vrai.
Oui, mais je veux dire, c'est un ressenti global.
On a
eu
quand même quelques réussites dans
oui,
ce
mais
qu'on
justement,
a,
c'est là, c'est là qu'on a fait. C'est là où j'interviens. C'est que sur le ressenti global, on a quand même plus de défaites que de victoires. Même si on a une victoire très marquante, elles sont très atténuées par toutes les défaites qu'on subit. Et ça, j'aime. C'est... Là, on se rend compte que mort...
porte son petit doigt au coin de sa bouche.
Mort, c'est
il
mort.
Il ne va pas tarder à caresser son chat invisible.
Ça y est, il le fait.
Ok. Sur la fiction, je crois qu'on a fait le tour.
Mm-hmm.
On va peut-être couper là et on fera un prochain podcast pour parler plus de théorie, de ce que vous pensez qui va arriver dans la suite de Sens, de ce que vous pensez qui est qui fait quoi, qui vous cache quoi, tout ça. Et bien, on vous dit à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.